t'es là.
Ah bon, ça va, je te localise.
Ça va?
Eh ben oui, oui, très heureuse d'être là pour vous parler notamment du clan des baleines.
C'est quoi le clan des baleines?
Non, c'est pas baleine.
Ah bon, je sais pas ce que j'ai entendu. Des baleines, c'est entre la baleine et la belette. Alors il y a ça, de la marge.
On apprend au fil de l'histoire que c'est un nom de famille.
Ah bon, d'accord.
Et vous expliquez tout ça.
Famille Belaine, ok.
Donc c'est un roman publié chez Scrinéo.
Ok, alors il y en a un autre qui a lu, c'était Jean-Hugues. Bon, il nous l'avait dit d'ailleurs dans sa dernière chronique. Il avait fait sa chronique sur les séries télé qu'il avait vues cet été. Et il avait dit la prochaine fois, je vous ferai une chronique sur les romans que j'ai lus cet été. Et il y en a 3 ou 4. Donc on va s'écouter ça après toi. Et puis Sébastien n'est pas là non plus, mais il n'est pas là non plus parce que Sébastien il est trop occupé à twitcher maintenant. Donc il va nous faire un petit point un peu sur sa vie de streamer, c'est ça? Et notamment, il a participé à une soirée HeroQuest sur Twitch.
Mais oui, oui, oui.
Ça vous dit quelque chose, HeroQuest?
Alors,
non, vous êtes trop jeune. C'était un jeu de plateau qui a été lancé à la fin des années 80, qui s'inspirait un petit peu du jeu de rôle. Bon, je ne vais pas développer ça tout de suite, puis on va peut-être en reparler dans une prochaine émission. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on va faire une émission sur les Games Workshop, qui était un co-éditeur avec MB de ce jeu à la fin des années 80. Déjà, rien que ça va nous occuper jusqu'à 22h. On a aussi pas mal de choses à vous annoncer dans l'agenda. Parce que c'est vraiment la rentrée.
Il y a plein d'actu.
Il se passe beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas mal de fous lancements aussi, dont je vais vous parler en fin d'émission. Alors, on va commencer l'émission avec un grec qu'on avait déjà passé il y a longtemps, à l'époque de son premier album. C'était il y a 4 ans, je crois. Il s'appelle Darkest.
D'accord.
Il est tout seul avec ses synthétiseurs, donc il faisait un petit peu de la synthwave que je trouvais assez gothique, moi. Et il a été un bon moment sans refaire de musique. Et il y a un morceau qui est sorti aujourd'hui sur Bandcamp et tout. Donc on va s'écouter ça, puis on va en parler après. Le morceau s'appelle Cosmos et c'est un hommage à Vangelis. Et ça s'entend beaucoup.
Thank you.
Just, donc dans Imaginaire sur le 101.5, avec donc A New Cosmos, un nouveau morceau de cet Athénien qui donc dédicacé ce morceau à Evangelos Odysseas Papathanasiou, mais je vous l'ai dit, c'est Evangelis. D'ailleurs, ça s'entend vachement. Je trouve que ce morceau, c'est un petit peu entre la musique de Blade Runner et celle des Chariots de Feu.
Alors, sans doute, je ne connais ni l'un ni l'autre, malheureusement.
Oui,
mais c'est très joli.
Bon, et ben, c'est l'heure de ta chronique, Karine.
Et je vous parle du Clan des Baleines de Julia Castel aux éditions Scrinéo. Julia Castel nous embarque dans un paysage sombre et mystérieux. On suit Nora, maman d'une petite fille nommée Alice, qui décide de déménager de Paris pour les Ardennes dans son village d'enfance. Elle quitte donc tout. Son ex-conjoint, sa clinique vétérinaire, ses habitudes, tout. Et très vite, suite au sauvetage d'un loup, Nora se retrouve entre des villageois terrifiés, persuadés que des loups terrorisent le village, et une famille, les Baleines, justement, visiblement très proche des loups. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Personne ne semble le savoir, mais Nora est bien décidée à tout comprendre. Et l'atmosphère est donc créée, les chapitres sont courts, la plume est fluide. Tout est judicieusement mis en place pour que le lecteur dévore cette histoire et ça marche. On suit vraiment chaque pas de Nora pour avancer dans cette intrigue à couper le souffle.
Mais il se passe des trucs moches, horribles dans le village ou
Oui, quelques petits trucs moches.
T'as employé le mot dévorer là.
Eh ben justement, c'est plutôt bien trouvé. Donc cela amène Nora à se remémorer son propre passé. J'en dis pas plus parce que
je ne veux
pas spoiler, ouais. Ce serait dommage, parce qu'il est vraiment très chouette. Et l'autrice nous amène au cœur des légendes, des mystères et au-delà des préjugés. Ces personnages ne sont pas délaissés. Nora est une femme courageuse, une mère prête à tout pour sa fille. Alice est une petite fille attendrissante, insouciante et enjouée. Simone est une petite dame touchante, sensible et aimante. Simone, c'est la tata. Et la relation de ces trois personnages est décrite avec beaucoup de justesse. Et puis, il y a Adrien, Lucien...
Oui, continue. Non, je voulais voir le livre.
Je suis interrompue.
Pas travailler tranquillement dans cette émission.
Exactement. Non, mais c'est quoi ces manières? Donc, je reprends. Et puis, il y a Adrien, Lucien, Samuel et bien d'autres personnages, tous plus mystérieux les uns que les autres, que l'on apprend à connaître au fil de la lecture. Le Clan des Baleines est donc un beau thriller fantastique qui explore l'intime et le surnaturel en revisitant le bestiaire des monstres fantastiques et fait réfléchir sur l'impact du passé, la quête identitaire, les valeurs humaines, l'harcèlement. Julia Castel est psychologue pour enfants dans un centre médico-social et se spécialise dans la psychopathologie infantile. Elle signe en ce mois de septembre son premier roman. Une plume captivante que je vous invite à découvrir.
Et une jolie couverture de Anna Ariane.
Exactement. Je vous laisse maintenant avec la chanson Far From the Horrors of the World. Toujours avec
donc
mon accent anglais.
Ça veut dire un peu à l'écart des inquiétudes du monde. Non
oui, ouais. Possible. Du groupe Tyr sur Radio G.
partir donc dans Imaginaire sur le 100.5. Tiens, je vais me mettre sur le chat du site de Radio G pour voir s'il y a déjà des gens qui râlent.
Mais
si, c'est un groupe à polémique, Karine. Je savais pas.
Décidément.
Et en fait, c'était un extrait de leur huitième album qui s'appelait Hell, H-E-L. Sorti en 2019. Depuis, il n'y a pas eu d'album solo. Ah. Et donc, c'est un groupe qui vient des îles Féroé.
Oui.
Et aux îles Féroé, il y a...
Je vais lire rapido.
Alors, les mecs, ils aiment bien la tradition, hein, comme tous les gens qui font du viking metal. Et aux îles Féroé, il y a une des traditions, c'est une fois par an, les hommes vont dans l'eau et avec des couteaux et une énorme pêche que certains considèrent comme étant un gros massacre. Alors, je ne sais plus trop, un genre de dauphin qui barbote dans le coin. Et donc, il y a un membre du groupe, au moins, qui participe à cette chose. Et ils ont écrit une chanson aussi sur un genre de pêcheur hyper célèbre et tout. Donc, ils se sont fait un petit peu boycotter après. Notamment,
oui,
Sea Shepherd, je crois, avait carrément organisé des manifs et tout, appelé au boycott...
Bah, en même temps, c'est quand même
la dernière tournée française de Tyr, dont la moitié des dates, on va dire, a tenu. Moi, je les ai vus au Motocultor l'année dernière, et effectivement, au début du concert, il y a des gens qui leur ont balancé des mottes de terre sur la gueule.
Oh.
Bon, c'est tout ce qu'ils avaient, de toute façon. Heureusement, il y a quand même une fouille à l'entrée des festivals.
Oui.
Et voilà.
Fort heureusement.
Voilà pour la légende de Tyr. Et on passe à la chronique de Jean-Hugues, donc multi-chronique dans l'imaginaire sur le 100.5.
Ouais.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers auditeurs, chers amis animateurs, ma chérie, bonsoir. Alors, comme je vous le disais lors de ma précédente chronique, je n'ai pas fait que regarder des séries. J'ai profité de Patricia, qui nous a fait un temps de daube en Bretagne, pour lire des livres. Et du coup, j'ai pu en lire quelques-uns. Parmi ceux-ci, j'ai lu, par exemple, La Pyramide de Glace, qui est une aventure de Nicolas Le Floch, de Jean-François Parot. C'est paru chez 10-18, ça coûte 9,20€. Alors, où l'on retrouve l'aimable Nicolas Le Floch, marquis de Ranreuil et commissaire de police du roi, en 1784, sous le règne de Louis XVI. Alors, il faut savoir que les aventures de Nicolas Le Floch depuis le départ avancent de manière chronologique, ce qui nous a permis de voir Nicolas Le Floch travailler pour Louis XV. Et là, il s'agit de Louis XVI. Le roi et son épouse... on le marquis dans leur petit papier, ça va bien l'aider le Nicolas Le Floch. Marie-Antoinette est victime de médisance, et c'est un euphémisme de belle taille, sur une vie soi-disant dissolue et vouée au stupre, visant bien entendu à la discréditer. Alors l'hiver de 1784 a été particulièrement rigoureux, et là, découverte d'un corps de femme dénudé dans un énorme stalagmite de glace, corps qui ressemble étrangement à la reine, et ça en plein Paris. Ça va plonger le commissaire dans une enquête qu'il verra frôler les sommets de l'État et les dangers qui courent quand on frôle les sommets de l'État. Alors c'est l'un des derniers romans qui a été écrit par Jean-François Parot avant son décès. Il contient tous les ingrédients de la recette réussie des intrigues et des enquêtes de Nicolas Le Floch. C'est d'abord un roman historique, qui fournit de détails de l'époque, alors c'est la vie à Paris, à Versailles, les commerces, les conditions climatiques et leurs conséquences. Et surtout, il ne faut pas oublier les recettes, toujours surprenantes pour notre temps, que déguste Nicolas et ses comparses habituels. Et puis, ce langage désuet et étrangement exotique. Alors, dans l'entourage de notre enquêteur, on va commencer par Aimé, qui est son aimé. Satine, chef de police à la retraite, mais toujours active dans les intrigues, puis le protecteur de Nicolas, Noblecourt, Bourdeau, le fidèle assistant, Smeagus, le chirurgien de marine, et Samson, le bourreau du Châtelet. Alors la galerie des personnages secondaires est très riche, hein, c'est, il y a des voyantes, des gigolos, des galantes, et quelques intrigants de haute lignée qui profitent sans vergogne de l'immunité que leur confère leur rang. C'est bien simple, on se croirait chez nous. Alors, risquant la mort, Nicolas va devoir démêler un écheveau délicieusement complexe. Le truc qui est vraiment sympa avec Monsieur Parot, c'est que l'immersion dans l'époque est parfaitement réussie. Et en plus, l'enquête, quoique complexe, est passionnante. Alors, j'ai lu aussi La stratégie de l'écureuil de Serge Brussolo. Alors, c'est paru chez HLO et ça coûte 8,90. Alors, Mickey Katz, c'est une jeune femme qui a un passé troublant. Elle a passé son enfance entre une mère indifférente, illustratrice célèbre et un père souvent très absent, mais qui profitait de ses moments passés avec elle pour l'entraîner à des techniques de survie, de combat, tout ça. Ça a fait d'elle un peu un garçon manqué, forcément. Devenue adulte, Mickey devient une architecte d'intérieur réputée aux États-Unis. Et alors qu'elle est recrutée pour restaurer la maison gothique en plein désert appartenant à Savannah Warlock, une romancière de thriller qui a eu son succès, et qui aujourd'hui est disparue, non pas qu'elle soit décédée, elle a disparu. Alors ce contrat va lui ouvrir des pans entiers de son passé, la petite Mickey, en mode « mais qui était véritablement son père ?» Qui est l'inquiétant personnage qui garde la maison de la rapacité des fans de l'auteur, alors qui n'assèchent pas mais qui ont un camp pas loin? Et Mickey se souvient brutalement que sa mère illustrait les romans de cette autrice Warlock, et une illustration précise est restée gravée dans sa mémoire. Une coïncidence? Et puis, il y a, outre les fans qui sont pas loin, un policier qui enquête sur Savannah. Alors, Serge Brussolo, comme d'habitude, utilise cette technique incomparable pour nous entraîner dès la première page de son thriller dans une lecture haletante. Alors, le mystère se révèle peu à peu, genre pelure d'oignon, ça se pèle, et chaque couche porte son lot d'énigmes. En milieu de roman, et comme il le fait habituellement, son oignon, par un changement de cap radical, va se décortiquer jusqu'à révéler son cœur surprenant et horrifique. J'ai lu aussi le très joli Cochrane vs Cthulhu de Gilberto Villarroel, traduit par Jacques Fuentealba. Rien que ça, c'est sorti chez Pocket, ça coûte 9,50. Alors j'ai connu Gilberto en mai, lors du Salon Imaginaire. Alors l'homme, un chilien à l'accent chantant, s'est avéré un homme charmant, érudit et d'une humilité rare pour un écrivain de l'imaginaire. Étant fan de Lovecraft et plus particulièrement de la cosmogonie qu'il a créée, ainsi que de ses adaptations plus ou moins réussies, je vais me lancer dans la lecture du roman en Bretagne. J'en ai profité, il y avait Patricia, c'était début de 2023 et ça m'a mis dans une ambiance adéquate. Alors j'aurais presque cru distinguer Fort Boyard, qui est l'un des héros de ce livre, de la côte. Mais malheureusement, j'étais beaucoup trop au nord. Alors, Lord Cochrane, c'est un personnage historique. C'est un lord écossais, il est inventeur, extrêmement intelligent. Il est rentré en conflit avec l'amirauté du fait de sa corruption endémique. De l'amirauté, pas de... Et il a participé aux luttes d'indépendance de plusieurs états d'Amérique du Sud, dont, comme par hasard, le Chili. Alors l'action du roman se situe quelques mois après le retour des Napoléon Bonaparte de l'île d'Elbe. Napoléon fait construire Fort Boyard et y installe une garnison de la garde impériale. Alors il sera détruit le fort, il sera reconstruit en 1870 pour en faire une prison pour les communards. Ah bah ouais. Bon, vont se retrouver dans le fort, outre l'officier impérial et honnête et sa garnison, Lord Cochrane qui a été fait prisonnier avec certains de ses hommes, le commissaire Bertrand, qui est une sorte de commissaire politique, accompagné d'une dizaine de grenadiers, qui escortent les frères Champollion, venus sur le fort, afin de déchiffrer de mystérieux hiéroglyphes découverts dans les fondations de celui-ci. Champollion, rien que ça. Le fort se fait attaquer par des créatures monstrueuses, et du coup, ça crée une sorte d'union sacrée de tous les résidents, amis et ennemis. Heureusement pour les Français, Lord Cochrane est là, inventeur et stratège hors pair. Mais tout d'un coup, une montagne sort de l'eau, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, le génie et le courage des résidents du fort suffiront-ils pour résister au réveil d'un grand ancien? Soyons clairs, il y en a beaucoup qui vont y laisser leur vie ou leur raison. C'est un joli roman, c'est original, palpitant, Gilberto détaille un travail bibliographique passionnant et personnel. Alors, s'il y avait un bémol, ça réside dans la répétition de certains faits. Genre le roman aurait été pré-publié en fascicule que je n'aurais pas été surpris. Mais ça reste un très très léger défaut à l'égard du plaisir que l'on prend à lire ce roman. Et je vous dis à très bientôt. Yeah.
Un peu de Lully dans Imaginaire sur le 100.5, ça change. On voit que c'est Jean-Hugues qui a choisi le morceau là. On va passer à la chronique de Sébastien. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, Sébastien, il passe presque plus de temps sur Twitch que sur le 101.5 maintenant. Et donc, avec le streamer Danou, qui faisait des... On avait déjà parlé.
Oui.
Des Twitch dont vous êtes le héros, en fait, en reprenant des livres dont vous êtes le héros et en les faisant jouer aux gens qui sont, en fait, logués sur le forum à ce moment-là. Ils choisissent des chemins narratifs. Et là, ils ont fait une soirée HeroQuest en direct. Alors, est-ce que je vous explique rapidement? Donc, c'était plutôt un jeu de plateau, mais il y a besoin d'un maître du jeu qui est derrière son écran et qui, lui, va gérer les personnages méchants. D'accord. Et donc, c'est un jeu quand même qui découle pas mal de Donjons et Dragons on incarne quatre personnages très, très typiques, l'elfe, le barbare, le nain. Et en fait, l'histoire, c'est de se déplacer dans un donjon, quoi. En ouvrant des portes, et puis il y a des combats, puis on a des quêtes, et puis on récupère des objets magiques. Donc on est un petit peu dans l'esprit PMT, porte-monstre-trésor. Et le jeu a connu plusieurs éditions quand même, et notamment une qui est ressortie via Hasbro, je crois, l'année dernière, voilà. Donc le jeu est un petit peu revenu à la mode. Et donc, ils vont nous faire un petit bilan, là, tous les deux, de leur soirée. Notamment, on aura une partie Actual Play. Donc, on écoute un peu un bout de partie. Et on vous signale aussi que si vous êtes fan d'Actual Play, les voix du Scénarium existent toujours sur l'antenne de Radio G, mais c'est plus après nous le mardi. Maintenant, Sébastien est passé le lundi à 21h.
Exactement.
En alternance avec son émission de bande dessinée, La Case de Seb. Allez, c'est parti pour la chronique de Seb, mais l'autre là, dans l'imaginaire sur le 100.5.
Vendredi 18 août, au soir, le scénario d'HeroQuest, sélectionné par Danou, s'intitulait « Le bastion du chaos ». Tout en ayant amassé des trésors, pour certains uniques, les quatre héros, le barbare, l'enchanteur, le nain, l'elfe, avaient à nettoyer tout le donjon dans lequel ils pénétraient. Durant quelques heures, j'ai beaucoup aimé retrouver les sensations eues plus de 30 ans en arrière, lorsque je jouais des après-midi entières aux jeux de société de Rogue Fantasy HeroQuest. C'est un jeu des plus distrayants aussi. Danou, en maître du donjon, s'est débrouillé comme un chef, a proposé en vidéo et audio HeroQuest sur Twitch. Avec bruitage de porte et une musique d'ambiance appropriée. Et ce, pour que le public ait la meilleure vision du jeu possible et soit libre d'intervenir par chat pour donner de la force aux héros. Je mentionne également l'existence d'un passionnant dossier très complet de presque 2 heures en podcast, qui couvre l'histoire d'HeroQuest. C'est le podcast numéro 67, trouvable sur la chaîne YouTube du PDVELH. Va suivre un extrait vécu de quelques minutes, d'un des tours de jeu dont les principaux mécanismes ont été exposés par Danou, et appliqués naturellement par les joueurs dont je faisais partie.
Alors, c'est maintenant au premier de jouer, donc on a dit que c'était Lune pour le barbare.
Lune, Gizmo, Ado et moi. Voilà.
Ça marche, donc Lune, les deux demoiselles et bien sûr Jug pour terminer. Donc, c'est à toi Lune, que veux-tu faire?
Déplacement.
Donc je lance les deux dés, pour le premier déplacement tu as droit à 3 cases, que fais-tu?
J'avance d'une case, tu m'ouvres la porte s'il te plaît. D'accord. Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté.
J'enlève la porte ouverte, j'enlève la porte fermée, j'ouvre la porte et je te montre ce qu'il y a dans la prochaine pièce. Tu as 2 lutins. Tu as 2 portes également. Une porte là, fermée. Une porte là, fermée. Voilà, c'est tout ce que tu vois depuis la porte ouverte. Que désires-tu faire?
Je vais d'une case
Tu avances
en avant.
Ok.
Et pour la dernière case, je vais à gauche.
Tu vas à gauche. Comme tu n'as pas joué depuis longtemps, j'imagine, tu as droit de faire une action après un déplacement. Que désires-tu faire? Je rappelle qu'ouvrir une porte n'est pas une action.
Je ne peux pas faire d'action, il y a les monstres.
Exactement. Je poserai des questions un peu comme ça pour savoir si vous avez bien lu les règles quand même. Donc en effet, quand il y a des personnages dans une pièce, vous n'avez pas le droit de faire une action. La seule chose que vous pouvez faire dans une pièce, c'est d'aller attaquer. Et une fois que les ennemis sont éliminés de la pièce, vous avez droit de faire les différentes actions, c'est-à-dire chercher une porte secrète, chercher un piège ou chercher un trésor dans cette pièce. Parfait. C'est à Gizmo.
Je lance les dés.
2.
Je sors de la pièce. Je vais dans l'autre.
Tu ne peux pas sortir de la pièce puisque tu as fait 2. Donc je te pose dans l'escalier. Tu arrives juste à la porte en fait.
À la porte. Ah, voilà.
Donc tu es juste là. Est-ce que tu as envie de faire une action, Gizmo? Ou est-ce que tu laisses la place au suivant?
Alors j'aimerais faire un déplacement s'il te plaît.
Tu as fait 6.
Gizmo, est-ce que je peux te sauter par-dessus toi, s'il te plaît?
Oui, oui. Mais seulement.
1, 2, 3, 4. Où est-ce que tu vas te placer? Tu as encore droit à 2 cases de déplacement. Ah tu non, es pile devant la porte, là.
Ouais, mais je me décale à l'autre côté, en fait. Droite contre le mur.
Parfait. Donc, c'est à Sébastien, enfin, Jug, de faire son déplacement ou son action.
Ah oui, je vais faire une action. Un déplacement, pardon.
Un déplacement. Tu as 5 cases de déplacement.
Je vais sortir de la pièce pour me positionner entre le nain et le barbare.
Tu as une chose à faire avant tout.
Ah oui, est-ce que je peux passer Gizmo pour te protéger?
Oui.
Voilà, je vais me mettre devant Gizmo pour la protéger au cas où.
2, 3, et tu restes là ou tu vas en avant?
Non, je vais rester devant elle.
De bleu, on a des vrais héros ce soir.
J'attends que les lutins ils viennent.
Voilà, c'est exactement ce qui va se passer puisque maintenant, une fois que les 4 protagonistes ont fait leur déplacement et leurs actions, quand ils peuvent en faire, c'est à moi de bouger mes bonhommes. Bien sûr, j'ai du lutin, ils ont vu les protagonistes qui rentrent. Le lutin là, il est pas téméraire, il va pas aller vers un barbare, donc il va aller vers un nain. C'est un gobelin, vous inquiétez pas, le nom il change un petit peu. Mais c'est la créature qui est en face avec 2 dés d'attaque, 1 dé de défense et 10 cases de déplacement. Donc 10 cases, c'est largement assez. Donc moi je vais avec le premier vers Batnaudrey, le nain, la naine. Et avec le second, je vais directement vers Zjug qui est l'elfe. Et bien sûr, j'attaque. Je vais faire un premier attaque. Que se passe-t-il lors d'une attaque? Comme vous pouvez le voir à l'écran, mes deux guerriers ont la même chose, c'est les mêmes personnages. Ils ont 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Donc, avec le premier gobelin, je vais attaquer le nain maintenant, donc avec 2 dés. Je n'ai pas fait de tête de mort, donc le nain n'a pas besoin de se défendre, étant donné que mon attaque n'a pas porté. Par contre, le nain ne peut pas maintenant attaquer mon gobelin. Vous avez compris que ça va être à son tour après d'attaquer pour pouvoir anéantir mon gobelin. Maintenant, c'est le second gobelin qui va attaquer Zjug, l'elfe. Et pour le coup, j'ai aussi 2 dés d'attaque. Et là, pour le coup, vous pouvez voir qu'il a une tête de mort, donc un de mes coups potentiellement va porter. Pour ce faire, Zjug doit défendre. Combien tu as de dés de défense?
J'en ai 2, si je me rappelle bien.
Et tu as 2 dés de défense, mais tu as le droit... Ah non, comme c'est une attaque, tu dois faire une défense. Ouais, c'est juste. Donc, tu as droit à 2 dés de défense. Il doit faire automatiquement un bouclier blanc pour annuler ma tête de mort. S'il n'a pas de bouclier blanc, il aura 1 point de dégâts. Et il n'a pas fait de bouclier blanc. Vous voyez qu'il a une tête de mort et un bouclier noir. Du coup, Zjug, sur ta feuille d'aventure, tu es prié d'enlever 1 point de dégâts car je viens de te toucher.
Balance.
Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Et bien sûr, voici le moment événement, le vendredi 22 septembre 2023, dès 20h, la fameuse soirée HeroQuest dont vous êtes le héros. N'hésitez pas à venir participer à l'aventure en tapant la commande !! HeroQuest et vous aurez mon adresse email danou@gmail.com pour vous inscrire, que vous soyez novice, débutant,
intermédiaire, avancé, c'est complètement égal. L'important, c'est de découvrir ce magnifique jeu et j'espère que vous en prendrez beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera le vendredi 22 septembre 2023 dès 20h sur ma chaîne Twitch. Et bien sûr, les quatre protagonistes seront découverts le soir même. Donc, vous allez voir qui sont nos invités mystères. Donc, quatre par soirée, bien sûr. Et puis, dans le chat, il y aura une ambiance de feu, j'espère, comme lors de notre première session qui était juste fabuleuse. Alors, je vous y attends nombreux. N'hésitez pas à venir, je le répète, le vendredi 22 septembre 2023, dès 20h sur la chaîne de Danou LDBELH. À bientôt pour de nouvelles aventures.
Pour la conclusion musicale, je vous inviterai à faire équipe avec Monte Cristo d'Indochine pour toujours plus de soif d'aventure sur le 101.5 FM. Évidemment. Bye bye.
Les plus voyous à l'entre-nous, ils sont
Indochine sur Radio G dans l'imaginaire. Ouais, ouais. Un extrait de leur troisième album en 1985. Je voulais qu'on parle un petit peu fou lancement. Ça frétille un petit peu là en ce moment.
Mais enfin, oui,
surtout, c'est parce que c'est des gens que je connais aussi.
Vas-y,
moi aussi, je vais faire de la pub pour des potes dans cette émission. D'abord, bah, le truc qui vient de se lancer, c'est un artbook de Philippe Casa. Donc, bon, c'est bien qu'on en parle aussi. C'était notre, nos invités d'honneur, un peu, on peut dire, aux deux dernières. Le prix d'ailleurs d'Al.
De l'édition précédente.
Ouais, cette année. Et c'est les éditions. Alors, je vais avoir du mal à le dire. Steve Vecnan, qui étaient des gens qui s'étaient lancés au début des années 90, plutôt dans le jeu de rôle à la base. Et après, ils ont sorti pas mal de romans de SFFF francophones, ouais, surtout. Et puis, un de leurs premiers trucs aussi, c'était d'avoir fait un artbook de John Howe. Vous voyez qui c'est, John Howe ?
Alors, pas bon. Du tout.
Bon, je pense que c'est l'illustrateur le plus associé à Tolkien, en fait.
Ah.
Bon, ça tombe bien, on en reparlera tout à l'heure dans l'agenda, d'ailleurs. Il avait déjà dessiné des versions donc illustrées en fait, des romans les plus célèbres de Tolkien. Mm. Et puis, on va dire logiquement, on lui a demandé de travailler sur les films de Peter Jackson.
D'accord.
Où il a donc, on va dire, réalisé un travail de préparation pour le, bah, tout ce qui était visuel, quoi. Et puis ce monsieur, on l'a vu aussi, il parle un petit peu français et tout, c'est un anglais, hein, je crois qu'il est... Et on l'a vu dans des séries documentaires sur Arte, où il va rencontrer des gens, enfin c'est très tourné sur l'imaginaire. Il y a eu un truc, je crois, sur les pattes Tolkien, il y a eu un truc sur les dragons, il y a une série en 4 épisodes qui s'appelle, oh, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, sur les traces de la fantasy, je sais plus, chose comme ça, où on le voit, je ne sais pas, il y a un épisode consacré à Robert Howard, à Lovecraft, au frère Grimm. Et puis, donc très sympa. Et alors, donc, John Howe, donc le premier artbook qui avait été fait par Steve Vecnan avait été épuisé, ils l'ont retiré, ça a été un gros succès dans leur catalogue. Donc, c'est quand même des gros livres de luxe, quoi. Et ensuite, ils en ont fait un deuxième sur Florence Magnin, donc illustratrice française assez célèbre aussi, dans, on va dire, dans le dessin de l'imaginaire. Monsieur Karine, tu dois connaître des couvertures de livres, des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas super récent, peut-être. Et puis là, ils sortent un projet, donc un artbook de Philippe Casa. Donc, ça va se présenter sous la forme d'un livre qui fait 180 pages. Enfin, pour le moment, là, parce que le full lancement vient de commencer. Et vous savez, bon, en gros, plus on engrange d'argent, on débloque, en fait, des améliorations qui fait que, bon, il y a déjà un très beau bouquin qui est prévu au départ. Et puis là, il sera peut-être encore plus beau, quoi. Et notamment, bon, bah, le fait de le full lancer aussi, bon, ça permet de récupérer aussi des petits trucs qui vont être exclusifs, quoi. Alors, la sortie du livre, quand même, est prévue en juin 2024. Et là, il y a aussi des add-ons, donc des compléments, en fait, à l'achat du bouquin, qui coûte 40 euros, qui sont des posters, en fait, des affiches, des tirages d'art, en fait, de 5 illustrations de Casa pour le moment. Donc voilà, ça vient de commencer et c'est sur Kickstarter. Et puis, je voulais aussi parler d'un truc, c'est une offre d'abonnement à Jeux de Rôle Magazine. Donc, Jeux de Rôle Magazine, c'est peut-être un petit peu on va dire, le deuxième magazine français qui parle du jeu de rôle, après le célèbre Casus Belli, qui existe encore et qui était le pionnier, je pense, en début des années 80. Donc, Jeux de Rôle Magazine, qu'on pouvait trouver, en fait, soit en kiosque, soit en PDF sur le site de leur éditeur, Titam. Et en fait, là, ils vont arrêter d'être distribués en kiosque. Ça devient compliqué, en fait, de faire des magazines. Ça devient compliqué pour un éditeur déjà de faire des livres. Hein. Le prix du papier a quand même vachement augmenté.
Ah bah,
on a parlé la semaine dernière de la fin des éditions ActuSF. On va dire que je pense que l'économie de tout ça, enfin de l'impression, est un petit peu compliquée en ce moment. Donc, Jeux de Rôle Magazine, il propose en fait une offre d'abonnement qui sera donc 4 numéros pour 48 euros. Moi, je regrette un petit peu qu'il n'offre pas... comment dire, un abonnement numérique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ce full lancement d'abonnement à JDR Mag, c'est sur Game On Tabletop, qui est une plateforme francophone surtout, qui permet de vous lancer plutôt des choses ludiques. D'habitude, c'est surtout le jeu de rôle. Karine, non, pas de projet comme ça, toi, dont tu voulais parler ?
Alors, pas en vue de lancement, effectivement.
Bon, on va parler de l'agenda. Alors, on a encore le temps d'écouter. Ouais, alors, vite fait. Et le premier truc dont je voulais vous parler dans l'agenda, c'est la soirée jeudi soir au 122. Soirée concert dessiné. Avec, donc, c'est organisé par le festival Angers BD, dont la prochaine édition sera dans quoi, 2 mois et demi, je pense. Et puis là, c'est, on connaît bien l'illustrateur de ce concert dessiné parce que c'est JMX.
Oui,
qu'on
oui.
A déjà, que vous avez probablement croisé déjà au Salon Imaginaire, qui est venu aussi dans la case de Seb. On a une jolie dédicace d'ailleurs sur le tableau quand on arrive à la radio. Et le chanteur, par contre, qui l'accompagne, je ne connaissais pas du tout, il s'appelle Eric L. C'est un auteur-compositeur-chanteur en juin, j'ai l'impression. Donc on va s'écouter un petit peu un morceau de son dernier album. Et puis après, on revient vite fait quand même vous parler de l'agenda qui arrive et qui est assez chargé.
Voilà. Depuis, sa peur avait des ailes. Plus de plateau, plus de moteur, ça tourne, plus rond pour elle. Passent les jours, rien ne s'efface, plus de scénario, plus de silence. Action. L'angoisse l'enlace. Bodega Bay, lié comme deux inséparables. Bodega Bay, Tibi et Mélanie. À Bodega Bay, la psychose des coups de bec. Bodega Bay. Bodega Bay, Tippi et Mélanie. À Bodega Bay, la psychose des coups de bec. Bodega Bay, dans sa tête. Bodega Bay. Depuis des ailes et les corbeaux, ses vertigos, le décor à raison d'elle. Bodega Bay, lié comme deux inséparables. Bodega Bay, Tippi et Mélanie. La psychose des coups de bec. Bodega Bay, il a commis l'irréparable. Bodega Bay, plus de printemps pour Tippi. À Bodega Bay, Hitchcock et ses coups de bec.
Michael dans Imaginaire sur Radio G. Un extrait de son album À quoi vivre, Bodega Bay. Et donc, il sera en concert jeudi prochain au 122. Enfin, un concert dessiné par Jean-Mathias Xavier, alias JMX. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, la rencontre de ces deux univers.
Oui, faut
j'ai
y
dit
y
qu'il était en juin, Ericelle, tout à l'heure. En fait, j'en sais rien du tout. Bon, bref. Écoutez, vous pourrez aller voir et lui demander. C'est payant, on peut prendre ses places, je crois, sur le site du 122. Il y a un tarif solidaire à tout le monde. Ça va. C'est quelques euros. Donc allez-y. Puis je crois qu'il y aura une expo de JMX dès 18h, il me semble. Karine, tu avais des trucs à nous annoncer, l'actu d'Imaginaire aussi.
Eh oui, tout à fait. Et notamment, dans le cadre du mois de l'Imaginaire, nous organisons des tables rondes. Le 6 octobre, notamment à l'Université d'Angers, à 18h30, il y aura une table ronde sur le militantisme dans les littératures de l'imaginaire avec Camille Le Boulanger, Fanny Truchon et un enseignant-chercheur qui va être modéré par Manon à la BU. Contrairement à ce qu'avait dit Pierre-Marie la dernière fois.
Mais ça change.
Exactement. Il y a eu quelques informations qui ont changé et le 13 octobre, on est toujours sur la thématique du corps dans les littératures de l'imaginaire qui sera modérée par Pierre-Marie.
Alright, on avait aussi des choses à dire. Il y a la grosse journée, je parlais de Tolkien tout à l'heure, grosse journée, l'événement cosplay au château de Saumur, on va dire presque la fin de cette expo, avec une conférence, le légendaire de Tolkien, la fantasy au cinéma, et puis un blind test avec les amis de Hop 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 qui font des quiz sur la culture geek. Sinon, n'oubliez pas la après-midi, initiation au jeu de rôle fait par les arts ludiques à la bibliothèque de Belleveil, samedi après-midi prochain. Et à la bibliothèque, ce sera aussi à Toussaint, la grande braderie, avant le déménagement. Donc, c'est le moment de faire des affaires.
Tout à fait.
Et nous, donc, on se retrouve dans deux semaines dans Imaginaire sur le 101.5. Salut !
Salut !
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.